La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Et bien maintenant que les fêtes sont passées, que le nouvel an est digéré, que nous sommes lancés dans l'an numéro 13 du troisième millénaire.
Tout ça, c'est bien, hein, ah, ça c'est fait bien. Important, là. Hein.
Ah oui. Nous allons reprendre nos activités. Et pour commencer, même avec les voix que nous avons, dont vous constatez qu'elles sont toujours aussi peu brillantes.
Et oui, mais ça ira mieux la semaine prochaine, peut-être.
Hein. Ah ben, espérons. Et pour commencer, donc, nous allons reprendre notre voyage dans le dictionnaire des titres de jazz et de ceux qui se cachent derrière. Et nous voici avec un morceau qui s'appelle State Street Special, qui est dû au pianiste Jimmy Yancey.
Je vais vous le dire en anglais, State Street Special.
Vous êtes bien aimable. Et c'est le moment de dire deux mots de Jimmy Yancey. En fait, il est très connu comme pianiste de blues et de boogie, avec un style très spécial, très personnel.
Si on prend tout à fait au début, c'est un petit enfant prodige au départ.
Eh oui, il s'est fait connaître comme danseur et danseur à claquettes dès l'âge de 6 ans.
Ah ben dites donc, hein.
Il a donc été inclus dans des tournées réputées, et avant la guerre de 14. Mais après la mort de la reine Victoria tout de même, on retrouve Jimmy Yancey, âgé de 10 ans, dans un spectacle donné pour le roi d'Angleterre en personne.
S'il vous plaît.
Donc cet homme-là a dansé pour Édouard VII. Le fameux ex-prince de Galles, qui connu aimait... de la belle époque.
Voilà, et qui aimait beaucoup tout ce qui était nouveauté, jazz. C'était un esprit très libre. Hein.
Ah oui, extrêmement libre et d'ailleurs également très libre avec les dames. On lui prête d'ailleurs l'invention d'un célèbre fauteuil. Nous passons sur ce détail qui n'entre pas dans nos émissions.
Comment
State Street, ça se passe à Chicago parce que Yancey a beaucoup bourlingué mais a fini par atterrir à Chicago. Et en fait, c'est une sorte d'épine dorsale de toute la ville qui la traverse du nord au sud et qui dessert en particulier le quartier sud.
Le long de cette épine dorsale, vous avez plein de lieux légendaires. Parce que c'était bourré d'établissements, de clubs, de boîtes. Quand on allait dans le quartier sud, ben c'était pour s'amuser.
Et autour de State Street donc, se trouvaient la plupart des bons coins que nous avons eu l'occasion d'évoquer dans cette émission. L'Apex Club, par exemple, le El Rado, le Grand Terrasse, le Deluxe Café, le Plantation Café et même le Royal Garden, le fameux Royal Garden, ex-Lincoln Garden ou... King Oliver se fit connaître. Sans parler du Sunset Café, vous vous rendez compte, tout ça, eh ben, c'est évoqué à sa manière par ce cher Yancey. Donc, avec son climat absolument unique, inimitable, et la petite coda qui termine toujours, comme une signature, les morceaux qu'il joue.
State Street Special. Thank you.
tape ce petit trait à la fin des morceaux de Jimmy Yancey, ça veut dire « Vous avez le bonjour de Yancey ».
Et c'est vrai que c'est un homme qui est assez carré. D'ailleurs, dans sa manière de jouer, il est toujours en équilibre. Qu'il aille vite ou pas, il y a toujours une sorte de sérénité, un équilibre formidable dans sa manière de jouer.
En plus, comme nous disions tout à l'heure, Yancey, c'est un climat qui n'appartient qu'à lui. C'est très porteur de poésie et de nostalgie, Yancey. Enfin, on passe pas assez de Yancey sur cette station, mais s'il fallait commencer à faire l'inventaire de tous nos regrets, on n'en finirait pas. Et maintenant, nous allons nous embarquer, toujours à Chicago d'ailleurs, nous allons embarquer au Théâtre Vendôme.
C'est un nom français, mais en réalité, là, on va entendre une drôle de chose qui s'appelle Static Strut.
Static Strut, le chef d'orchestre maison qui s'appelle Erskine Tate, a un répertoire comme ça assez amusant. Et il bénéficie aussi des prestations du jeune Louis Armstrong qui va faire des piges dans cet orchestre. Et qui est d'ailleurs dans le disque que nous allons entendre.
On se demande pourquoi Static.
Static Strut, ah, mais ça nous met à une autre époque que les radios FM.
Et oui, parce qu'il s'agit des parasites qui sont causés à la radio par l'électricité static.
C'était une grande théorie de l'époque, comment se débarrasser des parasites, mais on ne peut pas, c'est tristesse statique. Alors, trouver des systèmes pour essayer, mais enfin, on n'arrivait jamais totalement. Et c'est pour ça qu'on a fini par inventer la modulation de fréquence qui se moque des parasites par un procédé astucieux sur lequel nous ne vous ferons pas de conférence aujourd'hui.
Heureusement, parce qu'on ne s'y connaît pas tellement.
C'est un orchestre célèbre, Erskine Tate, qui n'a enregistré que deux faces, dont celle-là.
Static Strut. Là, on ne peut pas nier l'époque à laquelle ça a été fait. Hein. C'est très typique.
Ah oui, l'arrangement et l'orchestre lui-même sont tout à fait typiques. Mais quand on suit le trompettiste dont nous sommes gratifiés d'une abondante partie, hein, Louis Armstrong joue beaucoup dans ce disque, on se rend compte à quel point il est en train d'enfoncer les murs.
Louis Armstrong, c'est toujours la cerise sur le gâteau. Il peut jouer avec un orchestre moyen, finalement, son apport, eh bien, ça booste totalement l'orchestre.
Surtout à cette époque, car c'est le moment où, comme je disais, il est en train d'inventer un langage.
Ouais.
Tout le monde va s'engouffrer derrière, et c'est très intéressant, cette confrontation entre quelque chose d'un peu plan-plan et l'arrivée de cette espèce de génie vibrionnant.
Au fond, c'est le début d'une époque.
Tout à fait. Le début d'ailleurs, c'est également le début de la fameuse série des Hot Five qui a mis le feu, comme dirait une chanteuse de ma connaissance, à tout le milieu jazzistique de l'époque. Et maintenant, nous voilà à la Nouvelle-Orléans.
Alors, cet orchestre-là, il a une particularité. Il n'a jamais quitté la Nouvelle-Orléans. Et il n'y a pas beaucoup d'orchestres qui sont dans ce cas-là, parce qu'ils ont tous été tentés un jour ou l'autre d'aller un peu visiter les autres coins, que ce soit Chicago. Eh bien non, celui-là, il est resté sur place.
Il y a eu une énorme émigration, c'est vrai. Et la Nouvelle-Orléans s'est vidée de beaucoup de musiciens à l'époque, au début des années 20. Mais certains orchestres sont restés, Armand Piron, par exemple, etc. Et également, celui qu'on va entendre,
Sam Morgan.
Sam Morgan nous joue un morceau qui s'appelle
Stepping on the Gas. Alors, stepping, vous savez, step, c'est la marche, c'est aussi le pied qu'on met sur la marche. Hein. Et stepping, ça veut dire en appuyant le pied, on the gas.
Sur l'accélérateur. Autrement dit, ça veut dire
pied au plancher.
Mais comme tu peux voir, à la Nouvelle-Orléans, on ne s'énerve jamais. En revanche, on est bien documenté parce qu'on peut constater qu'un an après la publication du disque, la coda de ce morceau ressemble comme deux gouttes d'eau à celle du fameux Cornet Chop Suey de Louis Armstrong à la même époque, par le Hot Five, qui a quand même été enregistré à l'autre bout des États-Unis.
Oui, mais les musiciens se repassaient certaines choses, comme en disant « Regarde, écoute cette merveille !»
Bah, c'est bien comme ça chez nous aussi.
Bah
hein.
Oui,
ça se passe d'oreille de musicien à oreille de musicien, hein, tout ça.
Absolument.
Et voici maintenant un accident corporel qui a donné lieu à un morceau de Barney Bigard.
c'est steps, steps down. Ah, steps, on en a parlé tout à l'heure, ça la marche.
Oui.
Et steps down, on suppose bien qu'on s'est un peu cassé la figure.
Oui, exactement. Ça veut dire laisser tomber, se retirer. Ça veut aussi dire se casser la figure. Et en fait, c'est un accident purement ponctuel. Un jour où Barney Bigard, le clarinettiste, jouait dans un orchestre où il y avait Ben Webster, il quitte la scène, il se casse la figure, il tombe par terre. Et à ce moment-là, Ben Webster le regarde avec ses gros yeux, parce que c'était une sorte d'énorme bonhomme avec un regard extraordinaire. Et il lui dit « Tu t'es cassé la gueule ». Et après, à chaque fois que Barney Bigard montait sur la scène, il lui disait « Step, step, up !» Et quand il descendait, « Step, step, down !» Et c'est devenu une sorte de sobriquet. Et quand Barney Bigard en a eu assez d'entendre ça, il a tout exorcisé en enregistrant un morceau qui porte ce titre.
Comme quoi, quand on se moque, bah, finalement, ça peut faire un beau morceau.
Donc, en gros, ce qu'on va entendre là, en trio avec le pianiste Eddie Haywood, c'est un morceau qu'on pourrait appeler en français « Avance et laisse tomber ». Laisse tomber quoi ? Je vous le demande. Là, c'était lui. Il était en très mauvais état et l'autre se moquait de lui parce que Ben Webster avait un côté brutal, impitoyable. The Rainy.
Et oui, après Steps, bah maintenant c'est Stomping. Par ordre alphabétique, tout ceci est bien normal.
Ah, mais absolument. Et Stomp, ça désigne, comment pourrait-on dire ça ?
quelque chose d'un peu punché, peut-être.
Exactement. Et dans la musique et dans le comportement, c'est pourquoi des orchestres s'appellent les Ceci, Cela, Stompers. C'est pourquoi on verra plus loin un type être surnommé Stompy. Et c'est pourquoi là, nous sommes en train de stomper à Zurigny. Le Rény, c'est le sobriquet pour un endroit célèbre de Harlem.
C'est un endroit un peu amusant de ce point de vue-là, parce que il préfigure ce que nous voyons dans nos campagnes, où on a la salle polyvalente, où on fait tout. On fait aussi bien du sport que du théâtre, que de la danse. Et c'est rare à l'époque à Harlem, parce que souvent c'était les établissements avaient une destination et une seule.
Ah là, on est dans la polyvalence, et ça s'appelle, en réalité, ce Rény, c'est
Renaissance Ballroom à Harlem.
Renaissance Ballroom. Et là, donc, c'est tout à fait vrai. Et il y a même des matchs de basket célèbres qui s'y sont déroulés. On y fait aussi beaucoup de réceptions. Tu sais, ça préfigure aussi un peu les salons Vianney, hein, dans un sens.
Oui.
Quoique je ne suis pas convaincu qu'on ait fait des parties de basket dans les salons Vianney.
Je suis même convaincu du contraire.
Oui, la luserie aurait quand même couru pas mal de risques. Là, c'est un grand immeuble. Ça se passe sur deux étages. C'est moins connu que des endroits comme le Savoy, sur lequel on va revenir, ou le Roseland.
Oui.
Mais peut-être à cause du fait qu'il y avait un peu de tout. Mais on y a vu passer des orchestres fort intéressants, des gens dont on parle peu et qui méritent qu'on s'y attache.
Comme Edgar Heiss.
Edgar Heiss était un pianiste, arrangeur, compositeur et chef d'orchestre qui a beaucoup travaillé pour les autres, en particulier pour le big band de Lecky Mulinder, mais qui a eu un temps, à une époque faste, son propre grand orchestre où il a fait un peu ce qu'il voulait faire.
Alors ça mérite qu'on l'écoute.
Et comme ce grand orchestre a été souvent programmé au Renaissance Ballroom, il a tenu à écrire un morceau en hommage à cet endroit qu'il aimait beaucoup.
Stomping at the Rény.
Et voilà, on a fait le tour. En fait, ce Stompin' at the Rennie était une réponse à quelques temps de distance à un autre disque par un autre orchestre.
Plus connu celui-là, hein, quand même.
Ah oui, beaucoup plus connu. C'était le fameux
Stomping at the Savoy avec Chick Webb.
Eh oui, parce que l'orchestre de Chick Webb, qui lui était l'orchestre maison du Savoy Ballroom, qui était un endroit emblématique, alors c'était le plus grand dancing et le plus célèbre.
Et là, il y avait quelqu'un d'exceptionnel. C'était Chick Webb lui-même, parce que c'était quelqu'un qui avait une force de percussion dans sa manière de jouer de la batterie qui soulevait les couples de terre.
Ah, ça c'est vrai. Et ce qui est extraordinaire, on l'a déjà dit dans cette émission, mais je crois qu'on ne le dira jamais assez, c'est que le plus grand de tous les batteurs de jazz, qui est certainement celui-là, c'était un petit bonhomme atteint de tuberculose osseuse, qui était tout rabougri, qui faisait 1m30.
Ouais, un type minuscule avec une force faramineuse.
Et qui, malheureusement,
Il est mort jeune.
Est emporté par cette maladie. Oui, ouais. Il avait à peine passé 30 ans. Oui,
oui. Ouais. Mais quand on voit ce type derrière sa batterie, on voit des photos, on a l'impression d'un ingénial.
Et quand on entend certains de ses morceaux, la puissance qu'il a, c'est absolument incroyable. Alors, naturellement...
C'était difficile de rivaliser avec lui.
Oui, c'était même impossible. Et ce Stompin' at the Savoy, c'était un morceau qui servait également d'indicatif à l'orchestre, puisque l'orchestre était attitré à cet endroit-là. Et on rappellera quand même que le Savoy Ballroom, c'était un dancing qui était en étage d'un grand immeuble qui a été démoli dans les années 50, qui pouvait recevoir 3000 danseurs, ce qui est quand même considérable. Qu'il y avait à chaque bout de la salle un podium avec un grand orchestre dessus, c'est-à-dire que la musique se relayait sans aucun temps mort, et que naturellement cette disposition a permis d'organiser des batailles d'orchestre qui sont restées absolument fameuses et pour lesquelles, 3000 ou pas, on a refusé du monde. Je pense qu'il y a une de ces batailles d'orchestre qui a laissé dans la rue 20 000 personnes. C'est-à-dire qu'il a mis des haut-parleurs dans la rue, quoi. Puis les gens, ils ont entendu. Mais quand même, 20 000, ça fait quand même du bruit. Hein.
Ça veut dire que c'était vraiment quelque chose de très, très populaire.
Et là, des danses sont nées, comme le fameux Lindy Hop, qu'on appelle chez nous le rock acrobatique, il est né au Savoy. Et on va entendre donc la version originale de l'indicatif.
Et vous allez pouvoir comparer avec le précédent. C'est pas pour enfoncer le précédent, qui était quand même un très bon orchestre de bal, hein. Mais c'est vrai que vous allez voir qu'il y a quelque chose en plus.
Là, on a franchi quelques divisions.
Oui, un palier.
On est dans la cour des très grands.
Pour un très petit homme.
Pour un très petit homme et l'indicatif de son orchestre.
Stomping at the Savoy. Thank you.
Tombine at the Savoy a été composé par Edgar Sampson. Et Edgar Sampson, vous l'entendez à chaque émission de la planète du jazz, parce qu'on l'entend à la fin de l'émission. C'est le saxophoniste qui prend derrière la trompette et dont on entend quelques mesures avant le fading final. Très bon musicien, Edgar Sampson. Et nous voici maintenant devant un personnage qu'on oublie trop souvent.
C'est un Stompyman.
Ah oui, celui-là, il est très occupé. Et ce personnage indispensable à la vie de tout grand orchestre surtout, c'est le...
Band Boy.
Ah, le Band Boy.
Alors, un Band Boy, c'est quelqu'un qui doit savoir tout faire. L'orchestre arrive à Paris. Moi, je voudrais, dit un des musiciens, tu vas me chercher telle marque de cigarette ou de cigarillo. Hop, il y va. C'est lui qui met les chaises, c'est lui qui place les micros avec les techniciens, qui explique aux techniciens, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. C'est un homme à qui on peut tout demander.
Il place les partitions sur les pupitres.
N'est-ce pas?
Il porte les malles d'instruments.
N'est-ce pas?
Ah non, mais c'est une dure besogne. Et donc, c'est le type qui est partout à la fois.
Quand on est dans un grand orchestre, on a intérêt à être bien avec lui. Parce qu'il peut vous rendre la vie odieuse si il va pas refuser de faire. Il dit, j'ai pas trouvé. Et effectivement, un band boy, c'est l'indispensable.
Surtout dans un grand orchestre comme celui de Duke Ellington, où d'ailleurs, à mon avis, il avait un ou deux assistants. Et le band boy le plus fameux qu'ait eu Ellington, pendant 20 ans, il a fait ce
quand même, oui.
Il s'appelait Richard Bowden Jones. Et quand il est mort d'une sorte de pneumonie pendant une tournée de l'orchestre, pendant une résidence en Californie. Quand il est mort, ça a vraiment beaucoup peiné tout le monde. C'est un personnage trémulant, familier, et que tout le monde aimait beaucoup. Ellington a composé un morceau pour lui. Et peut-être en raison de son origine, peut-être qu'il était de Louisiane, je ne sais pas. Il est parti comme tremplin harmonique sur un vieux morceau de Nouvelle-Orléans qui s'appelle Panama.
Et ce morceau, eh bien, il l'a appelé Stompy Jones.
C'était le surnom de ce brave band boy.
Stompy rapide.
Ah oui, vite
tonique,
coup,
technique, tout.
Partout à la fois. Ce morceau se termine sur une très belle partie de trompette. Notre ami Cat Anderson, qui était devenu, et pour encore quelques années, un des piliers de l'orchestre Ellington. Là, on peut attirer l'attention de l'auditeur sur cette partie de trompette qui est assez longue. On peut vraiment profiter à la fin du morceau.
Oui, Cat Anderson, qui était le spécialiste des aigus.
Stompy Jones.
Thank you.
Eh ben voilà, un beau portrait de Band Boy. Hein. Là, avec ça, on est fixé. Et quant aux origines louisianaises, c'est assez convaincant parce qu'il y a beaucoup d'allusions. Hein. On entend une citation de Milner Burke Joyce, de Teddy Roll Morton, hein, qui était en droit de Nouvelle-Orléans. Donc je pense que ce fameux Stompy Jones, il devait être de par là-bas. Et maintenant, nous voilà dans le coltard.
Et oui, parce que figurez-vous que Blind Blake, ce qui veut dire aveugle, hein, et cet homme-là, on ne sait pas où il est né. On ne connaît pas le lieu de sa mort. C'est un peu une énigme.
Ah oui, parce qu'on ne connaît pas non plus le lieu de sa naissance et la date de sa mort. C'est une sorte d'étoile filante.
On sait seulement une chose, c'est qu'il a vécu à Chicago, qu'il a joué dans les rues, qu'il a beaucoup voyagé. Mais comment ? Pourquoi ? Avec qui ?
Et encore, il n'a pas vécu très longtemps à Chicago. Oh. Mais on le sait parce que c'est là qu'il a enregistré les disques qu'on connaît de lui.
C'est un point fixe parce qu'effectivement, il y a un enregistrement. C'est très intéressant ce genre de personnage parce que c'est vraiment la tradition des musiciens. Je ne dirais pas des musiciens errants, mais il y a un peu de ça.
Itinérant.
En tous les cas, itinérant. C'est vraiment quelqu'un qui est représentatif de musiciens qui ne sont pas installés dans la vie.
Des troubadours.
Ça rappelle les troubadours.
Quand il était en ville, il chantait dans la rue. Et quand il était en train de voyager, ben, il allait de village en village.
Oui.
Et son vrai nom, c'est quand même.
Oui, et on le sait ça. Il s'appelle Arthur Phelps.
C'est sur les fiches des enregistrements.
Voilà, il était obligé quand même.
Et le voilà qui chante à un endroit qu'il a dû connaître, puisqu'on ne sait pas très bien d'où il est. Il est du sud, hein, ça on le sait, mais c'est...
À cause de son accent, tout simplement.
Vague. C'est une rue de Nashville. Vous voyez Nashville, hein, c'est légendaire pour d'autres raisons. Cette rue de Nashville qui s'appelle...
Stonewall Street.
La rue du mur en pierre. Voilà. C'est vague. Il paraît que c'est devenu la 15e rue depuis, mais on pense que ce surnom datait de bien avant. En tout cas, Blind Blake a chanté cette rue.
Dans un blues.
Dans un blues. Et... on peut attirer l'attention sur la manière de jouer de la guitare de cet homme-là, qui, sur d'autres enregistrements, montre une virtuosité assez extraordinaire et qui était très, très polyvalent. Il savait tout faire. Il savait faire du ragtime, il savait faire du jazz, il savait faire du blues. Et dans les harmonies qu'il développe là pour s'accompagner, on reconnaît une modulation de jazz absolument typique de cette époque-là, que aucun autre chanteur de blues n'a pratiqué. Voici donc, par Blind Blake,
Stonewall Street Blues. Thank you.
me a freight train right until it stops. I'm gonna stay around here and be your stumbling block.
Et maintenant, nous prenons le train.
Le train, c'était pas seulement celui qui va au Far West avec pout, 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 et beaucoup de fumée, etc.
Non, il y avait de très grands réseaux très importants de
chemin de fer. D'autant qu'il faut bien se rendre compte que l'Amérique, c'était des milliers de kilomètres de trains.
Ah oui, alors promenez-vous en Amérique, vous verrez que ça devient long. Hein,
ça n'a rien à voir avec notre Paris-Marseille. Hein, notre Paris-Marseille, c'est quelque chose de relativement banal en Amérique.
Oui, mais c'est pas du tout Chicago, la Nouvelle-Orléans. Hein.
Eh bien, voilà. Donc, c'est très, très impressionnant comme distance. Et du coup, ils ont fait plein d'efforts pour que ce soit de plus en plus rapide. Et là, il y en a un qui va jusqu'à faire du 180 km/h de moyenne, ce qui était, pour l'époque, faramineux.
Et on a appelé ces fameux express qui se sont développés un peu partout dans les grands réseaux, on les a appelés...
des streamlines.
Et le Streamline Train, c'était quelque chose qui était très fréquenté par des gens qui avaient les moyens et qui, naturellement, comportait quelques passagères peu farouches.
Oui, il y avait quelques jeunes femmes plutôt plaisantes qui offraient leur service. Ce n'était pas officiel, bien sûr, mais tout le monde le savait.
Elles faisaient la ligne. C'était les Streamline Gals.
Gals, c'est une déformation de girls, les filles du Streamline.
Willie Smith, le lion, s'est emparé de ce phénomène social, et avec son petit orchestre de l'époque, qui était un orchestre assez musclé, je dois dire, et nous a laissé un solide morceau, bien structuré, bien organisé, comme devaient l'être ces demoiselles. Et ce morceau s'appelle, justement...
Streamline Girl.
Et maintenant, voilà une recette fort intéressante.
Figurez-vous que quand vous avez quelqu'un dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser parce qu'il vous tient des propos tout près de vous, quelquefois il vous prend par le haut du bras, par la manche, bon, on se dit comment faire ?
L'emmerdeur, le fâcheux.
Le fâcheux.
Comment faire, exactement. Sans, attention, comment faire intelligemment,
bien
c'est-à-dire
sûr.
Sans le
vexer.
Sans le vexer, pas facile.
Eh bien, justement, Rex Stewart a trouvé le moyen de faire ça, puisque son morceau s'appelle Subtle, ce qui veut dire débarras subtil.
Oui, c'est pas mal, on peut le dire comme ça. C'est un petit groupement de musiciens de Duke Ellington, comme il s'en est enregistré, pas mal au cours du parcours d'Ellington. Là, il est dirigé par Rex Stewart, et c'est une recette effectivement infaillible pour vous débarrasser des ennuyants.
Voici Subtle Slow.
On s'y croirait. Hein, surtout au début du disque, petite conversation pour éliminer le type. Là.
Avec la trompette wah-wah, qui ressemble tellement à une conversation. Hein.
Ah oui, et puis l'autre qui veut rien comprendre. Ouais, qui dit, bon.
Il veut pas le lâcher. Maintenant, voici, dans les S toujours.
Toujours dans les S.
Sugar Foot Stomp. Alors, Sugar Foot, c'est une manière tout à fait mignonne de dire... Oh, le pied en sucre, le petit sucre, le pied doux, quoi.
Et ça désigne, en fait, le pied du bon danseur.
Voilà.
Sugarfoot, c'est celui qui sait très bien danser. Mais comme le morceau est de King Oliver, ça se double d'une autre histoire. C'est pas par hasard qu'on a pris ce morceau de sucre. C'est que la manie de King Oliver, quand il arrivait quelque part, c'était de demander une demi-baguette, enfin l'équivalent, et le sucrier. Après quoi, il remplissait la demi-baguette de sucre et il se faisait un sandwich qu'il mangeait comme ça.
Et c'était pas du sucre en poudre.
Mais non.
C'était du sucre en morceaux et ça lui a coûté bien cher, ouais, pauvre Romain.
Ça a coûté très cher, exactement.
Parce qu'il a perdu toutes ses dents. Hein.
Il a fini par avoir une grave maladie de dents. Il est obligé de s'arrêter de jouer. Et le grand King Oliver est mort dans une misère noire, comme docker, il est mort d'épuisement, comme docker sur le port de Savannah.
Et oui, c'était le seul travail qu'il avait pu obtenir. La plus grande partie de sa vie, naturellement, il avait été trompettiste et chef d'orchestre. Et puis quand on devient vieux et qu'on n'a plus de dents, en tous les cas pour jouer de la trompette, et qu'on n'a pas de qualification particulière, le seul boulot qu'il avait trouvé, c'était docker.
Voilà, il avait commencé comme maître d'hôtel dans les maisons bourgeoises de Nouvelle-Orléans, et il a fini dans une misère atroce. On a les dernières lettres qu'il a écrites à sa sœur, c'est vraiment terrible.
Quand c'est déchirant. Ouais.
Quel musicien c'était, c'est terrible. Néanmoins, nous lui devons ce morceau, ce Sugar Foot Stomp. Et là, nous allons entendre la version enregistrée par Fletcher Henderson, qui est très intéressante, parce que tout à l'heure, on a entendu le jeune Louis Armstrong chez Erskine Tate, mais là, on le voit 2 ans plus tôt, débarquant chez Fletcher Henderson. Et là, c'est là que la révolution a commencé, en fait. Et quand on entend ce qu'il joue, c'est absolument magnifique. Et il faut savoir aussi que là, il reprend un très célèbre solo de son maître King Oliver, enregistré un peu plus tôt, sous un autre nom. Tout ça pour vous dire que voici un disque à écouter, surtout pour le trompettiste, et que ça s'appelle
Sugar Foot Stomp.
Pour terminer, nous allons vous emmener à Neuilly.
Enfin, le Neuilly de Harlem, c'est-à-dire celui qu'on a appelé Sugar Hill. Hill, ça veut dire la colline.
Oui, c'est une petite colline, effectivement.
Et sugar, vous connaissez, c'est le mot sucre.
Oui, mais là...
Mais là, ça a une autre acception.
Là, c'est le fric. Sugar Hill, c'est la colline friquée. D'ailleurs, en fait, je vais vous dire, dans tous les endroits de la création, vous avez un Neuilly ou un Sugar Hill. Et je pourrais même vous donner le nom de celui d'une ville qui nous est chère.
On ne dit rien.
On ne dira rien.
Pour ne pas faire de jaloux.
Et pour ne faire de tort à personne. Dans ce Sugar Hill, qui est donc au nord de Harlem, sur très légère éminence, se trouve toujours donc chez les Noirs, naturellement. Les grands docteurs, parce qu'il y en a, hein, les grands avocats, les promoteurs, les financiers, tous ceux qui ont de l'argent, ils sont là. Sugar Hill. D'ailleurs, c'est là qu'habitait Duke Ellington, je vous signale.
Oui, que ça ne gênait pas du tout, d'ailleurs.
Pas du tout, au contraire. Mais c'est pas là qu'avait choisi d'habiter Louis Armstrong. Ah, tu vois.
Ouais.
Lui, il était dans le Queens. Et Rex Stewart, de nouveau, toujours avec un petit groupement ellingtonien, a enregistré un morceau dédié à ce Sugar Hill et aux fiestas qui s'y déroulaient, puisque c'est un morceau de danse, c'est un chim-cham-chimie, et il s'appelle...
Sugar Hill Chim-cham, dansons.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.